Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, la Côte d'Ivoire rend hommage à son premier ministre décédé. Un mois de prison ferme et 1 million de francs d'amende requis contre la journaliste Samira Sabou au Niger. L'ONU demande au Burundi de coopérer avec ses instances. En Libye, le Parlement pro-Haftar est d'accord pour une intervention de l'armée égyptienne. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. La Côte d'Ivoire a rendu un hommage national aujourd'hui au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet d'une crise cardiaque lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Eric Manirakiza.
Son cercueil, recouvert du drapeau ivoirien placé sur le parvis du palais présidentiel, a reçu les honneurs civils et militaires en présence de nombreuses personnalités, dont le président Alassane Ouattara, son homologue sénégalais Macky Sall et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Dauphin désigné du président Ouattara qu'il avait adoubé en mars, Amadou Gon Coulibaly a été fait grand croix de l'ordre national, la plus haute distinction du pays à titre posthume. Après une grève du cœur en 2012, Amadou Gon Coulibaly, dit AGC, était revenu en Côte d'Ivoire le 2 juillet après 2 mois d'hospitalisation en France pour des problèmes cardiaques. Le 8 juillet, il avait été accueilli par une haie d'honneur et des applaudissements des membres du gouvernement avant le Conseil des ministres. Il était décédé quelques heures plus tard. Le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, a souligné l'hommage unanime de la nation qu'il a servi avec tant de noblesse et de dévouement. Il sera inhumé vendredi à Korogo, sa ville natale, dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Au Mali, Moumtaga Tall, l'un des leaders du mouvement de contestation qui réclame le départ du pouvoir en place, appelle à un rassemblement de recueillement vendredi au monument de l'indépendance à Bamako, une semaine après une manifestation ayant dégénéré en 3 jours de troubles qui ont fait au moins 11 morts. Ouverture à la CPI du procès du djihadiste malien Alassane Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé et de destruction de mausolées à Tombouctou. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a déclaré que le djihadiste, alors commissaire de police islamique à Tombouctou, avait commis des crimes inimaginables et participé à l'instauration d'un règne de terreur. Au Niger, la journaliste et blogueuse Samira Sabou, arrêtée depuis plus d'un mois sur plainte du fils du président Issoufou Mahamadou, sera fixée sur son sort le 28 juillet prochain. Le bureau du procureur a requis contre la jeune journaliste 1 mois de prison ferme et 1 million de francs d'amende. Plus de détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le juge va-t-il ou non suivre le réquisitoire du procureur contre Samira Sabou? C'est l'interrogation de la plupart des journalistes qui ont suivi le procès de ce 14 juillet 2020. Le parquet a en effet requis 1 mois et 1 semaine ferme de condamnation et une amende d'1 million de francs CFA contre la blogueuse que le fils du président Issoufou Mahamadou accuse de l'avoir diffamée dans une publication sur Facebook relativement à la sulfureuse affaire de détournement de deniers publics au ministère de la Défense nationale. Les avocats de Samira Sabou disent être confiants pour le verdict attendu le 28 juillet prochain. La journaliste a été arrêtée et placée sous mandat dépôt à la prison civile de Niamey depuis le 10 juin dernier. En lien toujours avec cette affaire du ministère de la Défense nationale, un autre journaliste, Ali Soumana, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier, a passé 48 heures dans les locaux de la police judiciaire avant d'être libéré ce matin du 14 juillet par le juge d'instruction. Il avait été interpellé pour un article paru dans son journal sur la lenteur de l'évolution du dossier du ministère de la Défense nationale, partagé par la suite sur les réseaux sociaux. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Des militaires tchadiens ont ouvert le feu aujourd'hui sur une voiture de l'armée française avec à son bord des gendarmes qui prenaient des photographies à proximité d'un site sensible dans la capitale tchadienne. Le parquet de N'Djamena a ouvert une enquête. Il y a 5 semaines, 2 militaires français ont été blessés dans un incident similaire. La force française anti-djihadiste Barkhane, déployée au Sahel, a son siège dans la capitale tchadienne. En Angola, un homme a été tué à Luanda par la police chargée de faire respecter le couvre-feu pour lutter contre le coronavirus, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Cela porte officiellement à 8 le nombre de personnes abattues pendant le confinement. En République démocratique du Congo, le procès en appel de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi, s'ouvrira le 24 juillet. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été reconnu le 20 juin coupable du détournement de fonds publics de près de 50 millions de dollars et condamné à 20 ans de prison. En Libye, le Parlement basé dans l'Est qui appuie le maréchal Khalifa Haftar dit être d'accord avec une intervention militaire de l'Égypte en cas de menace de la Turquie. Les précisions de John Linden.
Aux forces armées égyptiennes d'intervenir pour protéger la sécurité nationale libyenne et égyptienne si elles voient une menace imminente pour la sécurité de nos deux pays, a indiqué dans un communiqué diffusé la nuit dernière le Parlement, réagissant à un discours du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi le 20 juin, dans lequel il avait menacé d'intervenir en Libye en réaction à une implication directe de la Turquie. Les relations entre le Caire et Ankara se sont dégradées après la destitution en 2013 en Égypte du président islamiste Mohamed Morsi, soutenu par la Turquie. Avec l'appui d'Ankara, les forces loyales au GNA ont engrangé des victoires, reprenant le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye. Les troupes du maréchal Haftar n'ont de leur côté pas cessé de reculer ces derniers mois, essuyant des revers qui ont signé l'échec de leur offensive sur Tripoli, lancée en avril 2019. Deux pouvoirs rivaux s'affrontent sur le sol libyen. Le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, est soutenu par la Turquie, qui a envoyé des soldats sur place. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, est appuyé par l'Égypte voisine, les Émirats arabes unis et la Russie.
En Tunisie, une internaute a été condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir partagé sur Facebook une publication imitant le style du Coran en parlant du coronavirus. Elle a été reconnue coupable d'atteinte à la religion et d'incitation à la haine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a exhorté le nouveau président burundais, Evariste Ndayishimiye, à démontrer sa volonté de changement en coopérant pleinement avec les mécanismes internationaux et à rouvrir le bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme. Nathalie Barge.
Il faut plus qu'un nouveau président pour briser le cycle de la violence au Burundi, précise le communiqué, soulignant que le nouveau gouvernement est composé essentiellement de caciques du régime du défunt président Nkurunziza, dont certains sont sous le coup de sanctions en raison de leur implication dans de graves violations des droits de l'homme. Cette transition pourrait devenir une opportunité d'amélioration si le gouvernement prend des mesures concrètes pour y remédier, a souligné Doudou Diène, le président de la commission. La commission de l'ONU rappelle que depuis 2015, des membres des forces de sécurité et de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir ont commis des exactions en toute impunité. La crise politique née en 2015 de la volonté du président Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir a fait 1200 morts et poussé à l'exil 400 000 personnes.
Épidémie de coronavirus dans le monde. Ici, aux États-Unis, l'État de Californie a durci les restrictions pour les commerces, généralisant notamment la fermeture des bars, salles de restaurants, cinémas et zoos à tout le territoire. En Grande-Bretagne, le gouvernement a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les magasins à partir du 24 juillet pour éviter une reprise de l'épidémie. Une mesure saluée mardi comme salutaire mais tardive. La Serbie observe 300 nouvelles contaminations par jour. Le pays s'approche des niveaux d'avril au pic de la première vague. La France devrait rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux publics, a déclaré Emmanuel Macron dans un rare entretien télévisé à l'occasion d'une fête nationale au format réduit, évoquant la date du 1er août pour la mise en œuvre de cette mesure. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Ekia Badou.
La Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, annonce l'octroi d'un prêt de 25 millions d'euros, plus de 16 milliards de francs CFA, à NCIA, Banque Côte d'Ivoire. Cette injection financière qui va s'étendre sur une année va permettre aux entreprises de supporter les effets de la pandémie du coronavirus. Les recettes pétrolières ont renfloué les caisses de l'État camerounais à 117 milliards de francs CFA au cours des trois premiers mois de l'année 2020. Cette enveloppe est en hausse par rapport aux prévisions de 85,4 milliards de francs CFA. Les créanciers de la compagnie aérienne sud-africaine ont approuvé un plan de restructuration qui se traduira par des suppressions d'emplois et la création d'une nouvelle société sur les ruines de South African Airlines, a annoncé mardi le ministère des Entreprises publiques. La compagnie emploie 5200 salariés. Ce plan prévoit des suppressions de postes qui n'ont pas été publiquement chiffrées, le ministère évoquant des indemnités de licenciement justes et raisonnables pour le personnel concerné. Le Royaume-Uni a annoncé mardi qu'il va expurger son réseau 5G de tout équipement produit par le géant chinois Huawei en raison d'un risque pour la sécurité du pays. L'achat de nouveaux équipements Huawei sera interdit après le 31 décembre 2020, devront être retirés d'ici 2027. Ce durcissement de position va exacerber les tensions entre Londres et Pékin.
Non, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Athlétisme. Pour commencer, le marathon de Chicago, prévu pour le 11 octobre, a été annulé à cause du Covid-19. En réponse aux préoccupations persistantes de santé publique provoquées par la pandémie de coronavirus, la ville de Chicago a annoncé la décision d'annuler le marathon de Chicago 2020 et toutes les activités du week-end de course, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Le mois dernier, le marathon de New York, l'un des événements les plus prestigieux du calendrier mondial de la course à pied, a été annulé, de même que ceux de Boston, Dublin et Paris. Le marathon de Londres a pour le moment été reporté au 4 octobre. Toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en basketball, Russell Westbrook, meneur vedette des Houston Rockets, a été testé positif au Covid-19. Nommé meilleur joueur NBA en 2017, Westbrook a rassuré ses fans sur Twitter. « Je me sens bien actuellement, je suis en quarantaine et j'ai hâte de rejoindre mes coéquipiers. Dès que j'en aurai l'autorisation, prenez ce virus au sérieux, portez un masque », a écrit le joueur de 31 ans. Comme Westbrook, deux autres joueurs des Rockets ne sont pas encore partis pour Orlando, James Harden et l'international camerounais Lukumba Amuté, mais Houston n'a pas donné d'explication à leur sujet. En football, la Fédération gabonaise de foot a finalement décidé de mettre un terme à ses différents championnats. D'après un communiqué de la FEGAFOOT, la saison sportive 2019-2020 est définitivement arrêtée. Aucune équipe de division inférieure ne sera promue, ni aucune formation de division supérieure descendre au palier inférieur. Bougwendi Sport, 15 points et premier du championnat au moment de sa suspension, disputera la Ligue des champions CAF, une première fois de son histoire. L'AS Manga Sport, deuxième, jouera la Coupe de la Confédération. En Afrique du Sud, par contre, le championnat va reprendre dans la province de Gauteng, région la plus touchée par la pandémie de coronavirus et qui comprend les villes de Pretoria et Johannesburg. Quatre footballeurs, dont Ben Moshoari des Orlando Pirates, ont confirmé avoir été testés positifs au coronavirus et se sont complètement rétablis. Le médecin de la fédération, Tulani Ngweya, a déclaré que son plan de lutte contre le virus est considéré par la FIFA comme l'un des meilleurs qu'elle ait reçu. Le président de la Ligue, Irvin Koza, a soutenu qu'il faudrait 6 semaines pour terminer la saison. Il reste 54 matchs de championnat à jouer, plus les demi-finales et la finale de la Coupe d'Afrique du Sud. La Ligue prévoit d'utiliser jusqu'à 11 stades et 14 terrains d'entraînement. Toutes les rencontres se dérouleront à huis clos et la plupart seront retransmises en direct. Mais la date de reprise exacte n'a pas encore été communiquée.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Presque toutes les personnes interpellées lors des manifestations à Bamako depuis vendredi ont été libérées, si l'on en croit les leaders de la contestation. Hier, les autorités maliennes ont relâché les leaders de la contestation qui réclament un changement de pouvoir. Parmi ces personnes figurait Clément Dembélé, connu pour sa croisade contre la corruption dans le pays. Au micro de Bagassi Koura, il revient d'abord sur les conditions de son arrestation.
Moi, j'ai été libéré hier soir parce que moi, j'étais enlevé depuis le vendredi, la nuit du vendredi au samedi. Ils sont venus chez moi avec 5 pick-up remplis d'hommes cagoulés en noir, avec des pistolets mitrailleurs. Ils ont entouré la maison, ils ont investi à l'intérieur. Et après, ils m'ont enlevé, ils m'ont amené dans une pièce qui fait à peu près 9 mètres carrés, où je suis resté là-bas pendant tout le week-end. Et hier après-midi, ceux qui étaient à la gendarmerie ont été libérés. Moi, j'ai été libéré vers le coup de 29. Nos avocats disent que tout le monde, à l'heure où je vous parle, tout le monde a été libéré.
Alors, quelle est la situation ce mardi à Bamako? Est-ce que le calme est revenu?
Le calme est relatif à Bamako. Il y a une préparation qui est là et puis nous sommes en train d'enterrer les morts.
Et vous parlez de combien de personnes?
Aujourd'hui, nous avons enterré 4 personnes. Au total, nous sommes à peu près une vingtaine de personnes, dont 11 ont été identifiées et à peu près 9 personnes ne sont pas encore véritablement identifiées, ce qui fait à peu près 20 morts. Et plus de 150 blessés au niveau des hôpitaux.
Est-ce qu'on sait comment ils sont morts?
Alors, les gens qui sont morts, c'est principalement quand les gens sont venus pour occuper les locaux de l'ORTM et l'Office des radios et des télévisions nationales de façon pacifique. Parce que moi-même, j'étais présent, on ne cassait pas, on ne brûlait pas, les gens étaient simplement là pour la désobéissance civile, donc c'était un sitting qui a été organisé. Et au bout de 1h30, il y a la force spéciale anti-terrorisme qu'on appelle FOSAT qui est venue et d'autres personnes sont arrivées, ils sont tous cagoulés avec des tenues noires et ils se sont mis à tirer dans la foule. La deuxième partie, c'est au niveau de la mosquée de l'imam Mahmoud Duko à Badalabou, où l'unité spéciale est venue pour rentrer dans la mosquée et à son domicile. Les populations sont sorties pour faire un barrage. Ils ont tiré dans l'État, ils ont tué des gens. Et au niveau aussi de l'Assemblée nationale, il y a eu des tirs qui ont blessé des gens qui sont décédés après. Donc, la plupart des morts, c'est au niveau de la mosquée de l'imam Mahmoud Duko à l'ORTM et au niveau de l'Assemblée nationale.
Comment vous voyez la suite des choses? Est-ce que vous êtes maintenant dans le processus de dialogue?
Nous allons dialoguer, mais nous allons continuer notre désobéissance parce que notre objectif, c'est maintenant la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons tenté...
Ah oui, ça ne change pas?
Nous avons tenté toutes les solutions, il ne veut rien savoir. Il est resté sur sa position. Il parle de la Cour constitutionnelle qui a été défaite. Mais ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a pratiquement plus personne dans cette Cour constitutionnelle. Il joue avec le temps, il joue avec l'usure. Et nous, aujourd'hui, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de façon pacifique, de façon démocratique.
C'était le professeur Clément Dembélé, un des leaders du mouvement de contestation au Mali.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les appels au calme et au dialogue se multiplient au Mali après les violences meurtrières du week-end. La troisième manifestation organisée par le mouvement du 5 juin contre le pouvoir a dégénéré, faisant au moins 11 morts et plus de 100 blessés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle, mais ses adversaires lui demandent d'aller plus loin en organisant des élections législatives partielles. Quelle solution à la crise politique au Mali? Nous discuterons de cela avec nos invités ce jeudi 16 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA et VOA.com.
Au Cameroun, les ministres de la communication et des télécommunications ont organisé hier à Yaoundé une conférence de presse consacrée en partie à l'usage des réseaux sociaux. Ils disent avoir noté une propension à la désinformation systématique à travers la diffusion et le partage des fake news, les attaques personnelles, les règlements de compte, les atteintes à la vie privée et le non-respect du secret des correspondances. Pour analyser tout cela, Mohamedou Oumfa, adjoint à Yaoundé, Boga Orin Doyoum, il dirige ICT Média, un cabinet conseil sur le numérique et Internet.
Vous savez, le Cameroun traverse en ce moment trois crises, c'est-à-dire deux crises sécuritaires dans la région du Nord-Ouest et dans la région de l'extrême Nord par Boko Haram. Ajouté à cela, il y a la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus. Donc, vous savez que les périodes de crise sont les occasions par excellence pour les officines cachées de créer et propager des fausses informations dans leur intérêt.
Est-ce qu'on peut avoir quelques cas concrets d'informations, de fake news partagées sur les réseaux sociaux qui inquiéteraient le gouvernement?
Si on prend par exemple le cas du Covid-19, il y a eu des fake news indiquant que des vaccins de Covid sont arrivés au Cameroun, ce qui était une fausse information, ce qui pouvait avoir un impact non seulement sur l'action du gouvernement, mais également sur les populations qui réussiront d'aller se faire vacciner ou alors d'envoyer leur enfant se faire vacciner parce qu'ils croiraient que c'est le vaccin contre la COVID-19.
Alors au Cameroun, quels sont les instruments de régulation de l'usage fait sur les réseaux sociaux? Comment se passe cette régulation et comment la jugez-vous?
Il y a une loi, c'est la loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun qui sanctionne les auteurs de ces fake news-là, à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et à une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions. C'est vrai qu'il n'y a pas encore une loi spécifique sur les fake news, mais cette loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité condamne les personnes qui publient ou propagent par voie de communication électronique, par les réseaux sociaux et autres, des informations qui ne peuvent pas justifier de leur authenticité.
Est-ce que cette loi est appliquée? Est-ce qu'il y a des cas concrets de répression de personnes qui ont partagé des fake news sur les réseaux sociaux?
Ben justement, c'est là le souci. Même s'il y a eu des cas, il n'y a pas eu publicité sur ces cas-là. Parce que si le public est au courant de ce que il y a telle personne qui a été condamnée parce qu'il a publié ou partagé sur son compte Facebook ou Twitter une fausse information, ça va donner une leçon aux internautes qui seraient tentés de partager ces fausses informations.
Au-delà de la régulation, est-ce que les autorités s'investissent assez pour partager la bonne information afin de contrer ces fake news?
Alors, il faut dire que le gouvernement mène des actions de communication, mais il y a encore des lacunes. Le gouvernement, bien qu'il soit présent sur certaines plateformes numériques, ne sont pas proactifs. C'est-à-dire quand une fake news circule, c'est peut-être une journée, deux journées plus tard que le gouvernement apporte le démenti. Mais entre-temps, la fausse information est partagée par le public. Il y a des nouveaux types de ressources humaines, par exemple les community managers, qu'il faut avoir, qu'il faut intégrer dans l'administration. Cela nécessite soit un recrutement, soit la formation, le renforcement des capacités en matière de communication digitale.
C'était Bogaorin Joyoum, directeur de ICT Média, un cabinet de conseil sur le numérique et Internet. Il était joint à Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Un suprémaciste blanc condamné à mort pour un triple meurtre a été exécuté dans l'Indiana ce mardi lors de la première exécution fédérale depuis 17 ans. Cette nuit, la Cour suprême a donné le feu vert aux autorités fédérales. Aux États-Unis, 21 États ont aboli la peine de mort et d'autres États ont des moratoires sur les exécutions, mais 28 États américains sur les 50 de la fédération applique la peine capitale. Nathalie Barge a joint Joseph Fah, avocat dans le Maryland, où la peine de mort a été abolie en 2013.
Nous sommes, j'ai envie de dire, choqués d'un point de vue du droit de l'homme et d'un point de vue de la constitutionnalité de la peine de mort également. Nous allons dire que nous sommes choqués et je pense qu'il est temps que la Cour suprême revisite de la constitutionnalité de la peine de mort. Nous pensons que cela, c'est immoral et inhumain. On peut condamner des gens à vie sans sursis, quitte à ce qu'ils meurent dans les prisons. Mais lorsque vous condamnez quelqu'un pour la peine de mort et que chaque jour, il se dise « demain c'est mon dernier jour, alors aujourd'hui serait mon dernier jour », c'est plus que de la torture.
Alors, l'application de la peine de mort au niveau fédéral n'était plus possible depuis 2003, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que cela implique, sachant qu'une trentaine d'États la pratique encore aux États-Unis?
Ce qui est vrai, parce que en fonction des crimes, chaque État décide de comment gérer ses droits. En fonction des crimes, il y a des États où la peine de mort est complètement illégale. Cela ne se fait plus. Au niveau fédéral, ce n'est pas que c'était illégal, c'est simplement qu'il y avait eu sursis sur exécution de plus près de 17 ans, de plus près de pratiquement 2003. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des contentieux qui existent sur la manière par laquelle l'exécution doit être faite, parce qu'on estime que certains médicaments ou bien certaines injections qui étaient faites torturaient beaucoup le prisonnier avant qu'il ne meure. Or, cela est inhumain, qui est une violation du 8e amendement, qui prend offense à tout ce qui est cruel comme peine. Or, les injections qui durent, les médicaments qui vont faire torturer le prisonnier avant qu'il ne ferme les yeux sont considérés comme cruels en violation du 8e amendement de la Constitution. Ce qui fait que pendant les 17 années, il y avait un important contentieux là-dessus, y compris même l'exécution qui a eu lieu ce matin à 8h07, celle de M. Lee, où la partie défenderesse, ou bien la défense, estimait que le médicament qui devait être utilisé pour l'injection posait un problème. Et ils ont demandé à la Cour suprême de mettre l'exécution en attente, en espérant qu'on ait un autre contentieux là-dessus pour déterminer si oui ou non le médicament en question pourrait être moins, l'État lui-même pourrait poser moins de peine pour le prisonnier.
C'était Joseph Fa, avocat dans le Maryland aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, l'équipe de football américain de Washington a annoncé l'abandon de son nom des Redskins, considéré raciste envers les Amérindiens. Le propriétaire de l'équipe, Don Snyder, a finalement cédé après s'être longtemps opposé à ce changement du nom des Redskins, qui signifie peau rouge en français. Mais le débat a été relancé après la mort de George Floyd et les manifestations contre le racisme. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint ici dans le Maryland Eugène Pewa Pelema, président d'Africa Education Sports.
Sur le plan historique du nom, puisque l'équipe a toujours été appelée de la sorte, sur le plan peut-être émotionnel, pour les supporters, c'est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2020, avec ce qui est arrivé, avec l'assassinat de George Floyd, et depuis des années déjà, les natifs avaient demandé que ce nom soit enlevé parce qu'ils estimaient que ça faisait un peu raciste. Et c'est depuis qu'ils demandent que cela soit fait et ça ne se faisait pas. Et donc, cela a été relancé il n'y a pas longtemps avec le Black Lives Matter Movement qui est venu un peu changer la face du monde. Tous les problèmes d'ordre considérés comme racistes sont revenus à la surface. Et ce qui a fait probablement reculer finalement les gens, parce qu'il y a eu une prise de conscience avec le Black Lives Matter. On a vu des gens de toute origine, que ce soit des Blancs, des Noirs, des Hispaniques, des Asiatiques, des gens de toutes les ethnies qui sont sortis pour s'exprimer sur le sujet.
Mais changer un nom, le nom d'une équipe, c'est toute une procédure, c'est compliqué hein, en sport, disons, en matière de droit du sport, n'est-ce pas?
Oui, c'est ce qui change, je pense que c'est, bon, il y a l'appellation, c'est copyright, ça change tout, les t-shirts. En tout cas, l'application est beaucoup plus commerciale dans le sens où tous les produits ont été faits depuis des années, se sont appelés de la sorte, leur nom, ce qui fait qu'en changeant aujourd'hui, c'est beaucoup plus un impact commercial, à mon avis, ça a à voir avec l'argent. Changer un nom, c'est pas aussi difficile que ça, mais c'est qu'aux États-Unis, le nom et la vente du produit vient avec le nom. Je pense que c'est plus de ce côté-là.
Surtout qu'on a vu que des compagnies comme Amazon ont décidé de ne plus vendre, par exemple, des t-shirts ou des maillots avec le nom Redskins.
Oh ouais, totalement. C'est exactement ça. En fait, nous vivons dans une société capitaliste. Et donc, souvent, l'argent commande. Mais là, je pense que le côté... Il y a un côté, un aspect qui a toujours été négligé et je pense que les gens prennent conscience de ça, le respect de l'autre, le respect de la culture de l'autre, le respect de l'humanité de l'autre. Et je pense que ça, c'est revenu au centre des débats et j'espère que ce ne sera pas que pendant juste un petit moment.
C'était Eugène Pewa Pelema, président d'Africa Education Sports. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sassi.